Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Ce week-end, trois journalistes russes ont été placés en détention, soit pour extrémisme, soit pour fake news, je le dis avec de grands guillemets. Un nouveau coup de pression du Kremlin contre la presse indépendante qui ne survit plus qu'en exil ou entre deux menaces de peine de prison, et le tout dans un climat de méfiance généralisée. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous sommes avec le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qui est reproché à nos trois confrères qui, précisons-le parce que ce n'est absolument pas anodin, collaborent avec AP, les Américains, avec Reuters, les Britanniques, et avec Forbes, des Américains, même s'il s'agit d'une édition locale.
Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé ce week-end, finalement, on a malheureusement un peu tendance à s'habituer à voir ça pour les militants, des arrestations, souvent de gens qu'on a déjà rencontrés, souvent de gens qu'on lit, qu'on suit au quotidien. Mais là, il s'agit effectivement de profils particuliers parce que ce sont des journalistes. Et finalement, le ménage dans les rédactions, il a été fait il y a déjà quelques temps en Russie. Et donc, les arrestations de journalistes ou de gens qui collaborent avec les journalistes, c'est plus si courant de nos jours parce que tout le monde est en exil, où tout le monde se fait discret, où tout le monde est déjà en prison. Il y a donc Konstantin Gabov qui a, lui, collaboré pour Reuters, Sergei Mingazov pour l'édition locale de Forbes, tu viens de le rappeler, Sergei Karelin pour AP, l'agence de presse AP. Alors ce sont des gens qui collaborent parce que c'est bien de préciser comment on travaille en Russie quand on est journaliste russe. Ce sont un peu des freelances, des gens qui vont travailler pour plusieurs rédactions. Et donc d'un côté, ils collaborent avec ces médias occidentaux qui certainement d'ailleurs leur permettent de gagner leur vie. Et de l'autre, ce sont des gens qu'on croise dans les tribunaux russes. Ce sont des gens très précieux pour nous parce que il y a tellement d'affaires au quotidien, d'opposants, de militants des droits de l'homme que nous, on ne peut pas être partout, nous, correspondants à l'étranger. Et donc, sur les réseaux sociaux, si on voit des images, des vidéos de ces gens qui sont derrière leur grille ou derrière cette vitre qu'on voit souvent dans les tribunaux russes, eh bien, c'est grâce à ce genre de Russes, ce genre de journalistes qui voient le journalisme vraiment comme un engagement nécessaire et ils ne gagnent pas particulièrement leur vie en travaillant de cette façon-là. Les deux confrères de Reuters et des AP, eux, on leur reproche quelque chose d'assez étrange d'avoir couvert notamment l'enterrement d'Alexei Navalny, d'avoir travaillé sur l'opposant Navalny, d'avoir produit des images. Et en fait, ce n'est pas très clair. Les autorités russes insinuent que ces images auraient pu être utilisées par la suite par les proches d'Alexei Navalny qui sont à l'étranger et qui continuent à faire tourner la page YouTube, le compte YouTube lié à l'opposant. Et donc, comme ce sont des agences de presse, on voit venir un peu la manipulation, c'est-à-dire qu'eux vont avoir tourné des images pour le compte de cette agence de presse. L'agence de presse va vendre ces images dans le monde entier et ces images ont vite fait de se retrouver entre les mains de militants et notamment ceux d'Alexei Navalny. Et quant à Sergei Mingazov de Forbes...
Je me permets juste de rappeler que juste après les obsèques d'Alexei Navalny, tu avais fait part de ton étonnement et en même temps sur ta crainte, non pas pour toi, mais vraiment à la fois pour les Russes qui avaient manifesté, mais aussi pour les journalistes russes qui étaient là. On n'arrêtait pas de dire, lorsqu'on était en direct sur l'antenne de BFM TV, les policiers sont là, ils sont en train de prendre des photos, les caméras de vidéosurveillance sont là et les effets, bah, ça y est, ils se sentent là-dessus.
Exactement. Et d'ailleurs, je rajouterais le nom d'Antonina Favorskaya, qui est la première journaliste qui a été arrêtée suite à l'enterrement d'Alexei Navalny. Et elle, à la limite, les accusations étaient un peu plus directes. Alors elle ne collaborait pas pour des médias étrangers, mais c'est cette femme qui avait filmé les dernières images d'Alexei Navalny en prison. Elle avait aussi filmé l'enterrement d'Alexei Navalny. Ces images faisaient le tour du monde à chaque fois. Et donc, c'est la première journaliste qui a été arrêtée. Donc, je précise rapidement que le 3 troisième ou quatrième journaliste, si on prend compte Antonina, Sergei Mingazov de Forbes, lui a été arrêté sur un statut, comme on dit en Russie, un peu plus classique, qui est celui de discrédit de l'armée, de fake news, pour un article qui visiblement concernait l'armée russe et qui n'a pas plu à l'armée russe.
Il le savait en l'écrivant, ses confrères et sa consœur savaient aussi qu'en filmant, en prenant des risques, eh bien, ils avaient de fortes chances de terminer en prison. Qu'est-ce qui fait que eux, toute petite fourmi face à l'ogre du Kremlin, ils arrivent quand même à se lever le matin en disant « Bon, ce soir, je vais sans doute dormir en prison ou un jour, on viendra frapper à ma porte, mais je le fais quand même. »
Ben écoute, j'ai rencontré des journalistes russes hier et ils ont expliqué quelque chose assez intéressant à observer, c'est-à-dire que au sein de ces jeunes, ce sont souvent hein, des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont donc journalistes indépendants à Moscou, qui couvrent la répression, l'actualité politique russe. Nombre d'entre eux se sont divisés un peu en deux camps. Il y a ceux qui ont considéré que ce n'était plus possible de travailler en Russie, qui sont partis en exil parce que justement c'était trop risqué, parce qu'ils savaient qu'à chaque papier qu'ils allaient faire, ils prenaient le risque de finir en prison. Et puis il y a ceux qui ont décidé d'essayer de jouer avec les règles. C'est-à-dire qu'ils assument l'autocensure. Il y a plein de choses dont ils ne parlent pas, mais ils essayent par contre en permanence d'être sur la ligne. Et cette ligne, elle est dangereuse parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où est la limite. Elle évolue en permanence avec les autorités russes, notamment sur le sujet d'Alexei Navalny, où progressivement, on voit des affaires apparaître qui concernent des histoires. Récemment, il y avait eu des Russes qui, eux, avaient participé à une manifestation bien avant que la fondation de l'opposant soit considérée comme extrémiste en Russie. À l'époque, évidemment, personne ne s'imaginait finir en prison pour ça. Donc, ces Russes-là sont encore... pas très nombreux, mais ils existent encore et eux prennent de vrais risques parce que ils essayent de jouer avec des limites. Et ceux que j'ai rencontrés hier me disaient que pour eux, c'était assez stupide de voir les choses comme ça parce que c'est comme jouer à un match de foot avec un arbitre qui finalement va changer les règles au cours du jeu pour de toute façon faire gagner l'équipe adverse et à la fin, enfin, vous êtes certain de perdre. Donc pour ces journalistes-là, ça n'avait aucun sens. Eux sont en exil hors de Russie. Mais voilà, c'est ceux qui sont encore en Russie, pour nous, journalistes étrangers, sont évidemment très importants parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et qui sont encore à la rencontre des Russes. Et on avait cette discussion hier aussi sur le fait que y en a certains qui arrivent à faire du terrain et à voyager dans toute la Russie et qui travaillent pour des médias connus pour être d'opposition, d'ailleurs qui ne sont plus les bienvenus en Russie, et qui passent encore entre les gouttes. Et donc on se demandait hier comment c'était encore possible.
Justement, allons vers toi, parce que avec une grande modestie, tu dis que toi, tu n'arrives pas à obtenir des choses que les Russes obtiennent, ne serait-ce que par l'accent et parce que tu n'es pas russe. Oui, mais alors toi, comment tu joues avec les règles aussi pour obtenir vraiment une température chez les Russes?
Alors, déjà, pour expliquer effectivement cette situation, j'avais vécu une fois un reportage, ça m'avait fait rire même, parce que on m'avait jamais énoncé les choses aussi clairement. Un conseiller municipal communiste d'une ville dans laquelle il y avait une grosse usine de voitures. Donc j'étais allé faire un reportage et je m'étais battu pour pouvoir rencontrer ce conseiller municipal. Et je savais qu'il y avait plein de problèmes autour de l'usine, notamment parce que les sanctions commençaient à se faire assez nombreuses et c'était une usine étrangère. Et ce conseiller municipal commence l'interview en me disant « On a beaucoup de problèmes en Russie, mais on préfère en discuter entre nous, on n'aime pas en parler aux étrangers ». Et donc ça donnait un peu le ton de l'interview parce que derrière j'ai
rien pu sortir. Il t'avait tout dit là en fait, voilà, en quelques secondes.
C'est ça, j'ai rien pu sortir de plus de cette interview parce qu'il m'avait annoncé la couleur dès le début. Au moins ça avait le mérite d'être clair, mais c'est une réalité. Donc c'est pour ça que quand vous êtes russe, on va vous raconter beaucoup de choses. Quand vous êtes étranger, on va vous raconter autre chose. Alors je dis pas qu'on va rien nous raconter, mais on va nous raconter autre chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un réflexe chez les Russes de vouloir donner une belle image de la Russie, une image positive.
Mais une belle image, c'est l'image de Poutine ou c'est simplement une fierté nationale et une image de leur Russie?
C'est ça, une volonté de ne pas jouer contre son camp. Et donc, critiquer la Russie, mettre en avant en tout cas ce qui ne va pas en Russie, pour beaucoup de Russes, c'est vu comme une façon de déstabiliser la Russie. Parce que voilà, toute alternance politique est vue comme un moyen de déstabiliser la Russie, mais toute critique d'un point de vue démocratique du pays, c'est aussi vu comme une faiblesse. Et donc vous allez vous rendre dans un endroit où, je ne sais pas, il se passe quelque chose de catastrophique, les gens vivent dans une misère totale, et pourtant, on va vous dire « oui, mais ça, c'est notre problème, on a ça, mais ça va s'arranger ». De toute façon, ce n'est pas le problème de Poutine, c'est le problème des autorités locales. Nous, tout va bien en Russie, à part par ça. Et c'est un peu la difficulté parce que on arrive à tirer des choses, c'est-à-dire qu'on discute, on essaye d'un peu de les pousser à parler de ce pourquoi moi je viens en reportage. Et on me dit des choses et puis on tombe quand même de temps en temps sur quelqu'un un peu critique qui n'arrive pas à se retenir contre le pouvoir et qui vous dit les choses. Mais tout ça, ça se passait vraiment comme ça avant la guerre. Maintenant, tout ça est plus compliqué, tout ça existe encore, mais c'est sûr que tout est plus compliqué. Juste adresser la parole à un Russe est beaucoup plus compliqué.
Sachant que donc il faut beaucoup de temps, beaucoup de persuasion, beaucoup de culture aussi à avoir pour connaître les gens, mais il faut aussi pouvoir l'envoyer son sujet, avoir le plus beau reportage du monde, mais être incapable, notamment pour des raisons techniques ou parce que le pouvoir ne le veut pas. Comment ça se passe à la fois pour les journalistes dits d'opposition, enfin grosso modo ceux qui ne sont vraiment pas d'accord avec Poutine et qui essayent d'avoir une température, je dirais, normale de la Russie, mais ça ne suffit pas, et pour toi également.
Ces journalistes-là, je pense, déjà sont vigilants. Comment dire, ils restent alertes sur la façon dont les autorités peuvent les voir. C'est-à-dire que s'ils se rendent dans une région et qu'ils se rendent compte qu'ils sont suivis, que y a des questions à l'aéroport, ce genre de choses, je pense qu'ils comprennent instantanément que ce n'est pas la peine d'aller au bout et de continuer le reportage. Alors que moi, à la limite, même si ça m'arrivait, je pourrais quand même essayer de pousser un peu le reportage parce que je suis étranger.
Jusqu'à un certain point, je me permets de t'interrompre, mais tu m'as parlé de ton voyage en train il y a quelques mois maintenant. Oui. Et tu avais senti que tu étais suivi. Pardon, mais parlons-en. Ça veut dire quoi, être suivi ? On pense tout de suite à deux types, type KGB avec la grande gabardine, comme dans les films des années 60. Est-ce qu'on en est là ?
Oh bah, je peux te raconter une année. Parce que là, pendant ce voyage, c'était en décembre dernier. Là, on m'avait un peu fait partir à distance de la ville. C'est-à-dire qu'il y avait mon numéro qui avait été diffusé en ligne. Mais je peux te raconter une autre anecdote. C'était au Daghestan, en Makhachkala, la capitale du Daghestan. Où c'est une région un peu sensible parce qu'il y a encore de l'islamisme dans les villages et donc les autorités russes, parce que vous savez, en Russie, quand le FSB vous surveille et que vous avez un contact direct avec eux, ils vous disent « on vous surveille pour vous protéger ». Mais je pense que dans cette région-là, il y a aussi une volonté de nous protéger parce qu'ils se disent « c'est un Français part tout seul dans un village du Daghestan ».
Daghestan, base arrière d'Al-Qaïda et de Daesh, que ce soit en Afghanistan ou pour les attentats, on l'a vu à Moscou.
Exactement, un Français c'est un grand village le Daghestan, hein. Vous arrivez sur place, tout le monde le sait dans la demi-heure. Donc moi, je préparais un reportage dans un de ces villages avec une consoeur russe. On s'était fait une petite équipe, on savait à qui on voulait parler. J'attends devant mon hôtel, ma consoeur, et on me transmet un message de Moscou, de quelqu'un qui nous surveille, me fait comprendre que je suis surveillé, qu'ils savent que je
qui
suis
c'est
là. C'est une bonne question parce qu'en fait, ces gens-là, pour dire ça comme ça, des services de renseignement, passent souvent par des collègues pour nous mettre la pression. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer... Alors là, ils avaient envoyé une photo de moi, mais qui datait d'un autre reportage. Il l'avait envoyé à une collègue en lui disant « Salut, on sait que Paul est en reportage là-bas pour information. » Ils savent très bien que je m'entends très bien avec cette collègue, qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et donc, ils se doutaient bien que la collègue allait me transmettre la photo et l'information. Donc là, je comprends que je suis ou je vais être surveillé. L'hôtel dans lequel j'étais avait oublié de m'enregistrer et il venait de le faire le matin même. Donc je venais d'avoir 2 jours tranquille parce que je pense que les autorités ne savaient pas que je dormais dans cet hôtel-là. Je me dis, je vais quand même remonter dans ma chambre d'hôtel chercher mon ordinateur. On va pas laisser traîner nos affaires comme ça à l'hôtel. Ce que je devrais faire normalement d'ailleurs en permanence. Et je sors de l'hôtel, je tombe nez à nez avec un monsieur. Alors les gens des services de sécurité russes ont à peu près tous la même tête en Russie. Veste en cuir, chaussures noires, sacoche en cuir.
La grosse quarantaine.
Oui, voilà, c'est ça. Avec évidemment les cheveux courts, hein, rasés. Je comprends, je vois la tête du monsieur instantanément que visiblement il n'est pas venu pour venir dormir à l'hôtel. Et lui-même regarde son téléphone et me regarde en même temps et je comprends qu'il a une photo de moi sur son téléphone et qu'il me cherche. Du coup, je le fixe et je lui fais même un signe de la tête pour lui dire « c'est bien moi que vous cherchez ». Et puis derrière, donc j'ai compris que le reportage était foutu. Pour le coup, je ne voulais pas mettre d'éventuelles sources en danger en débarquant avec une caravane du FSB derrière moi dans les villages. Et donc derrière, j'ai décidé de me promener un peu en ville pour m'assurer que j'étais bien suivi. Et là, ce monsieur m'a effectivement suivi dans toutes les rues.
De façon grossière ou tu regardais dans le reflet des boutiques, aussi comme dans les films?
De façon assez grossière, il était de l'autre côté de la rue à me fixer en permanence. Il baissait les yeux à chaque fois que je le regardais. Je me suis caché à un moment pour faire mon lacet derrière une voiture. Et à un moment où lui ne me regardait plus, et quand j'ai regardé à côté de la voiture quelle était sa réaction, j'ai vu qu'il était en panique, il me cherchait. Donc je me suis relevé en le regardant, et puis après j'ai fait un truc qu'on peut faire, c'est, je suis allé vers lui et je lui ai frôlé, il était assis sur un banc, je lui ai frôlé la jambe en passant pour lui montrer que j'avais compris qui il était, puis je l'ai regardé, je lui ai fait un sourire, et donc derrière il y a eu un changement d'homme, c'est-à-dire que lui est parti, ils en ont mis un autre pour monsieur,
la relève,
et lui je l'ai emmené à la plage, parce qu'à Marrakech il y a une plage. Et je me suis foutu pour foutu, je vais aller m'écouter justement un podcast à la plage. Et ce monsieur est venu s'asseoir avec moi à la plage pendant
une semaine. Tu l'as appris comment ça? Enfin, je veux dire, à faire ça. Parce qu'effectivement, c'est comme dans les films, mais à savoir sortir ses antennes aussi, c'est ça, devenir véritablement correspondant en Russie.
Mais parce que moi j'ai déjà eu des interrogatoires du FSB, j'ai déjà rencontré ces gens-là et ce sont des humains, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire plein d'erreurs et puis ils sont surtout assez bordéliques. Généralement, moi quand j'avais des interrogatoires, au bout d'une demi-heure, 20 minutes, ils ne savaient plus quoi me demander. Et donc j'ai toujours l'impression qu'ils ne comprenaient pas trop pourquoi ils m'avaient attrapé, pourquoi ils me posaient des questions. Enfin, c'est bureaucratique. En fait, le FSB. Et donc là, je comprends bien qu'ils sont pas méchants, en fait, et que s'ils avaient voulu m'arrêter, ils m'auraient arrêté directement. Que là, la volonté de ces gens, c'est surtout de me faire arrêter mon reportage, ce qui a fonctionné, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait ce reportage. Voilà. Et donc je sais, et puis bon, c'est arrivé à d'autres collègues, et je sais qu'ils vont pas mal le prendre, que je les regarde, que je m'approche d'eux, j'aurais même pu aller leur parler, je sais très bien ce qui se passe quand on le fait.
Oui, c'était pas subversif.
Voilà. Non, en fait, j'imagine qu'ils sont capables de nous suivre sans qu'on les remarque. Là, je pense que c'était volontaire, en fait, qu'on les remarque, parce que voilà, je vois qu'ils sont là, je comprends que je ne suis pas le bienvenu, qu'il faut que j'arrête mon reportage. Et juste pour te dire la fin de l'anecdote, ça s'est fini où je me suis mis en terrasse, comme beaucoup de journalistes sont finis au bar. Et en fin de journée, j'ai reçu une photo de moi assis en terrasse, pour le coup, de personnes qui étaient de l'autre côté de la vitre, dans le restaurant, et qui m'avaient pris en photo depuis l'intérieur du restaurant. Et ça,
mais des gens du FSB ?
Des gens du FSB, donc même contact, même réseau, qu'il avait envoyé à ma consoeur à Moscou, qui m'avait transmis la photo ensuite.
Mais au-delà de cet aspect presque rigolo, moi je l'ai connu aussi, où, oui tu as raison, on rentre vraiment dans le cliché, mais celui du bar, dans une zone de guerre, en Afghanistan, en Libye, où tu as un attaché culturel d'une ambassade américaine ou française qui vient t'offrir un verre, et tu comprends bien que c'est de l'espionnage. J'ai les souvenirs du Caire aussi, où on venait changer l'ampoule de ma chambre 10 fois par jour, voilà, et là on pense bien micro, on est presque à être comme James Bond, version Sean Connery, qui mettait un cheveu sur sa porte pour savoir s'il y avait un passage.
Des collègues alors moi je le fais, sauf que j'oublie à chaque fois, pas le cheveu, mais tu sais, cette astuce de mettre un livre par exemple d'une certaine façon sur une table, mm-hmm. et de voir si quelqu'un l'a bougé. Alors moi je le fais, sauf que je rentre dans la chambre, je bouge tout et j'oublie totalement que j'avais fait ça avant, donc ça ne sert à rien. Mais je sais que d'autres collègues le font à Moscou, et récemment l'un d'entre eux a remarqué que tout avait bougé en son absence, dans un reportage qui lui avait posé beaucoup de problèmes, et donc il s'était posé beaucoup de questions ensuite.
Mais le fait est que si ça se répète à chaque reportage qui paraît un petit peu sensible, ça a beau être grossier, ça a beau mobiliser une bureaucratie incroyable. Et donc là, tu me parles d'une demi-douzaine d'agents finalement là-dessus, qui ont sans doute autre chose à faire de plus important. Le fait est que au final, les reportages ne se font pas.
Oui, j'ai une copine d'ailleurs qui avait épuisé tout le commissariat de Marrakech, visiblement, parce qu'elle avait eu toute la journée des mecs qui avaient défilé. Enfin, quand il y a eu l'attentat à Moscou, pour tout te dire, c'est une des premières remarques qu'on s'est tous faites, nous, correspondants à Moscou. On a tous ces hommes qui nous suivent au quotidien quand on fait des reportages. Peut-être que si on les envoyait plutôt surveiller les islamistes, les choses n'auraient pas lieu de cette façon-là. Mais effectivement, c'est l'objectif principal, c'est de nous pousser à stresser. Et c'était arrivé d'ailleurs à l'envoyé spécial de BFM en mars.
Jérémy Normand.
On l'a carrément prévenu dès son arrivée. Quelqu'un va vous surveiller, c'est possible qu'il vous appelle, c'est possible qu'il vous retrouve. Et en fait, le travail, il est fait. À partir de ce moment-là, vous faites quand même un petit peu attention à ce que vous
faites.
Ça
reste dans la tête. Voilà. Mais tu arrives quand même à faire tes reportages. Les Russes arrivent quand même à le faire. Et surtout, et c'est ma toute dernière question, est-ce que les Russes, la population, les lisent, ces médias?
Ça, c'est une question clé. Certains de ces journalistes qui sont correspondants en région travaillent aussi pour des médias locaux. Et donc, on comprend que même s'ils ne publient pas la même chose dans leurs médias locaux que dans ces médias dits d'opposition, ou en tout cas critiques du pouvoir, on comprend qu'ils ont certainement une patte, ou en tout cas qu'ils essaient de faire passer des messages ou une façon d'angler leur reportage qui, certainement, peut pousser les Russes à voir les choses autrement. C'est très subtil, mais c'est comme ça
que ça
fonctionne.
La langue russe est au moins aussi riche que la langue française.
Voilà, exactement. Et pour le reste, je pense notamment aux médias Médusa, aujourd'hui la rédaction est basée dans les pays baltes et c'est un journal composé de journalistes russes en exil en langue russe. Je sais que c'est un média qui a une grosse audience. Alors c'est très lu en Occident, d'autant plus que la diaspora russe aujourd'hui est très importante en Occident, mais c'est quelque chose qui peut être lu en Russie aussi. C'est une marque que les gens connaissent.
Un tout dernier mot, justement, les gens qui écoutent ce podcast dans l'œil de Moscou, ils seraient assez curieux finalement de lire la presse quotidienne régionale, j'ai envie de dire, mais russe, pour avoir l'équivalent, je dirais, via les sites web, avec les systèmes de traduction. Si je veux connaître un petit peu la façon dont ça se passe, une actualité locale, sur quel type de médias je peux aller?
Alors, je ne saurais pas forcément dire, parce que chaque région a vraiment son média. Il n'y a pas une... comment dire, il n'y a que les chaînes d'État qui fonctionnent un peu comme France Télévisions, avec des déclinaisons régionales, des antennes régionales. Et pour ce qui est de la presse écrite locale, je peux te citer Ura.ru, U-R-A.ru, qui est le journal qui m'a dénoncé quand je suis allé à Ekaterinbourg. Et ça m'a d'autant plus vexé que c'est un journal que je lis au quotidien, parce que c'est une sorte de West France locale, et qui est assez efficace, qui couvre très bien la région. Et comme c'est une région assez grande, voilà, c'est un média assez important. Alors, ils ne sont pas très sympas, mais je le recommande quand même. Mais sinon, vous avez les déclinaisons de... Radio Free Europe, qui financé par le Congrès américain, on passe carrément chez les ennemis, mais qui travaille uniquement, à ma connaissance, avec des journalistes russes, dont certains sont des sources vraiment sur le terrain. Et en fait, ils ont des médias anglais sur certaines régions un peu sensibles. Vous avez le Caucase, vous avez la Crimée, c'est très important, leur site sur la Crimée. À mon avis, il n'y a pas d'autres sites qui s'appellent Crime Reali. Il n'y a pas d'autres sites internet, médias russes, russophones, qui permettent de comprendre autant ce qui se passe en Crimée. Donc, ces petits médias-là sont à suivre. Ah, et je citerai aussi Fontanka, qui est le West France. Il faut que j'arrête de citer West France. Mais
pardon, moi je viens du Télégramme, attention. Hein, mais West France, c'est un très
West
bon
France
journal.
Le West France ou le Télégramme de la région de Saint-Pétersbourg, et qui... a des liens avec les services, enfin des sources au sein des services de sécurité, et qui était notamment à la pointe quand il s'agissait de couvrir toutes les affaires d'Evgeny Prigojine à Saint-Pétersbourg. Et je me fais souvent la remarque de... Ouais, je m'étonne de voir à quel point ils peuvent être critiques du pouvoir parfois, alors sur des choses locales toujours, mais c'est un journal qui, à mon avis, est d'une excellente qualité. Et pour avoir déjà rencontré des faits diversiers de ce journal, je sais que ce sont des gens incroyables qui y travaillent.
Ben voilà, quelques bonnes astuces pour suivre l'actualité locale russe. On va parler la semaine prochaine de l'actualité nationale, puisqu'on se rapproche vraiment du 9 mai. Et d'ailleurs, Paul, toi qui repars à Moscou, puisqu'on se parle l'un face à l'autre cette fois-ci, tu viens d'apprendre que tu serais aux premières loges de ce défilé. Tu pourras nous expliquer notamment comment tu vas être... j'ai envie de dire presque utilisé par le Kremlin russe à propos de ce défilé. Tu commences à te douter de certaines choses, oui.
Lors d'une rare occasion pour nous, journalistes étrangers, de nous retrouver à 50, 60 mètres de Vladimir Poutine. C'est pour ça que j'accepte l'accréditation à chaque fois, parce que, enfin, à chaque fois, on ne l'a pas été depuis plusieurs années, mais j'ai toujours un peu poussé pour l'obtenir, parce que c'est une des rares occasions pour nous de voir Vladimir Poutine en vrai. Ça peut paraître bête, mais c'est finalement... pas quelque chose d'évident en ces temps de guerre.
Mais bien sûr, la Russie le fait totalement à dessein. Et bien sûr, comme d'habitude, tu vas essayer de jouer avec les règles pour nous montrer ça. Eh bien, la semaine prochaine, aux alentours du... Enfin, aux alentours, ce sera le 9 mai au matin à suivre sur BFM TV. On se retrouve à ce moment-là. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast original sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.